Bienvenue au Polysécur, épisode sur l'humain. Je suis accompagné de Carbon. Est-ce que tu peux te présenter?
Salut, moi je m'appelle Manu, mon pseudo c'est Corben et j'ai un site depuis 2004 qui s'appelle Corben.info sur lequel je parle de technologie, d'informatique, de bidouille, voilà tous les sujets qui m'intéressent. C'est à mi-chemin entre le blog et le média technologique.
Ah, effectivement, c'est une belle façon de l'exprimer parce que le style d'écriture n'est pas formel comme dans des articles, ouais. Mais n'a pas le style blog complètement non plus. Fait que je l'avais pas vu comme ça, mais c'est très intéressant. Puis j'aime ce style d'écriture-là, un peu entre amis, mais sur des sujets qui sont plus intenses. J'ai été invité sur le podcast parce que tu as publié il y a déjà quand même un certain temps, on a eu de la misère à se coordonner, le fait que tu as quitté les réseaux sociaux. Mais vraiment quitter réellement pour te préserver comme humain à travers ça, parce que tu étais rendu à un stade où c'était d'une toxicité insoutenable. Je trouve ça très intéressant parce que, effectivement, plus le temps avance, pire ces réseaux-là sont. Je vais voir ta réflexion qui t'a amené là. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de tirer quitter, justement, littéralement, puis même d'abandonner des réseaux qui sont quand même moins toxiques comme Mastodon et ainsi de suite. Tu vas voir, tu as un peu ton chemin.
Ouais, ouais. Alors, j'ai pas quitté tous les réseaux sociaux. Tu vois, je suis encore sur LinkedIn, je suis sur Instagram, sur TikTok, plutôt des plateformes où en fait sur ces plateformes-là de photos, de vidéos, voilà, c'est des gens qui créent du contenu et en dessous t'as des commentaires. C'est pas tout à fait pareil que des plateformes de microblogging comme X.com ou comme voilà Blue Sky, Threads, même de Facebook, enfin de Meta, etc. C'est pas tout à fait la même chose où là tout le monde écrit tout le temps plein de choses en permanence et c'est pas vraiment de la création de contenu, quoi. C'est très rare. Il y en a qui font des longs articles dessus, mais ça reste assez marginal, quoi. Et ouais, donc j'ai quitté en fait ces plateformes de microblogging là. Je sais plus quand exactement, mais milieu fin 2025. Ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, j'ai arrêté d'y écrire des choses, moi, à titre personnel, puis d'y aller pour lire, parce que déjà, alors moi, je suis pas un gros utilisateur de Blue Sky et Mastodon. Je suis pas, enfin, j'étais très très souvent sur X.com, beaucoup sur X.com, parce que j'y suis depuis 2007. Donc c'est un réseau social que j'aime beaucoup. Enfin voilà, j'ai grandi un peu avec. Hein. Donc voilà, enfin grandi. J'ai évolué, on va dire, avec. Et puis c'est là où j'avais mes contacts, mes amis, etc. Donc c'est vrai que c'est important pour moi. Et au fur et à mesure, je me suis effectivement rendu compte que ça devenait de plus en plus compliqué déjà d'avoir de l'information correcte dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant par l'algorithme qui me plaisent pas, mais j'arrive pas à m'en débarrasser, tu vois. J'essaye de filtrer, j'essaye de mettre, de m'abonner qu'à des contenus tech, des choses qui m'intéressent, mais t'as toujours quelque part dans un coin les sujets tendance ou des recommandations, ou des retweets de tes amis, etc. Donc en fait, on est toujours pollué par une espèce des messages un peu négatifs. On voit la vie en noir, en fait, quand on va sur X.com, c'est très négatif. Il y a beaucoup aussi de gens qui sont poussés, enfin l'algorithme les pousse et c'est pas des gens très recommandables, on va dire politiquement, je vais rester vague, mais voilà. c'est pas des gens avec qui j'ai envie de côtoyer. Et puis je trouve que tout le monde se parle de manière très agressive, quoi. Moi, je viens d'un monde où Internet, il y avait une étiquette à respecter. Il y avait, même si des fois ça chauffait un peu sur des forums ou par mail ou ce genre de trucs, en général, les gens savaient se tenir un petit peu. Là, c'est vraiment la foire au grand n'importe quoi. Parce que entre les racistes, les fous, les complotistes, on a tout le bestiaire. Je sais même pas comment le qualifier, mais voilà. Et donc je m'y reconnaissais pas, donc j'ai arrêté de le consulter, mais je continuais quand même à partager mes articles dessus parce que ça m'apporte de la visibilité sur ce que je fais. Sauf que pareil en fait, ça rejaillit aussi sur mon travail parce que moi, si tu veux, je mets tout mon cœur dans ce que je fais, j'aime bien ce que je fais, je suis content, je partage des choses. Des fois, je pousse un petit coup de gueule, mais ça reste très bon enfant. Enfin, je veux dire, je suis pas dans la politique, je suis pas dans des trucs qui pourraient être très, enfin, qui pourraient susciter des réactions vives, on va dire. Voilà. Au max, je vais parler de Windows et ça va énerver des Linuxiens, quoi. Enfin, c'est un peu ça le truc. Et pourtant, moi aussi, j'ai Maters, moi aussi, j'ai un tas de gens qui viennent critiquer, parce que les critiques peuvent être constructives et intéressantes, mais viennent finalement cracher. C'est juste un crachat, tu vois. Le mec arrive et il te crache sur les chaussures parce qu'il a pas lu l'article, ou il a pas compris ce qu'il y avait dedans, ou juste il est pas d'accord sur une toute petite phrase noyée dans un article de 2000 mots. Voilà. Donc, et en fait, ça m'impacte parce que, je suis un humain, comme tout le monde, je lis les messages, et ça me rend triste, en fait, de voir que je peux pas être compris de ces gens-là, en fait, parce qu'ils sont pas dans ma communauté, parce que c'est pas des informaticiens, parce qu'ils comprennent pas forcément ce qu'ils disent et ils vont l'interpréter d'une certaine manière. Et puis, parce que l'algorithme, en fait, j'ai l'impression, leur pousse mes contenus, parce que l'algorithme sait que ça va les faire réagir et du coup ils réagissent et puis après ça part en boule de neige un petit peu, quoi.
Oui, c'est drôle que tu parles de boule de neige parce qu'on en a beaucoup de ce côté-ci cette année. On est très très choyé. Même les États-Unis y ont goûté cette année. Juste au Texas, c'est fait qu'il y a d'autres qui ont jamais vu ça de leur vie. Fait que, bref, oui, c'est très fascinant. Ces gens-là qui se sentent le besoin, parce que pour lire depuis déjà quand même un certain temps ce que tu écris, je trouve ça très, justement, comme tu dis, bon enfant, c'est très entre amis, un peu des sujets, puis ça m'étonne encore parce que je suis peut-être un peu plus détaché que ça, puis je suis moins investi dans les réseaux sociaux que tu peux l'être parce que je ne les consomme que très peu ou j'interagis que très peu sur ceux-ci. Et je me suis moi-même débarqué de X au moment que Elon Musk est embarqué pour question de conviction personnelle.
Quand il avait débarqué, je me suis dit, je vais résister, je vais tenir bon, je vais rester dessus pour continuer à mettre un peu des choses positives. Et quand il a fait son salut nazi, j'ai vrillé, je lui ai dit non, laisse tomber, c'est fini. Là, c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a fait partir, en fait. C'est le salut nazi, là.
Ah non, c'est complètement fou. Puis ces espaces-là, puis c'est ça. Ben, disons, on va parler pré-Musk, post-Musk, oui. Parce que post, lui, c'est sûr qu'il veut absolument. Il est maintenant avoué, j'ai l'impression, pleinement assumé le fait que X est un lieu toxique qui permet à ce qu'ils disent en anglais, les grievances, les gens, de juste pouvoir pleurnicher sur leur état de situation. Et ça l'amène une toxicité, puis c'est une espèce de chambre d'écho très très forte qui maintenant est rendue quasi exclusivement pour le tout ce qui est la droite qui est malheureuse et le malheur dans cette droite là c'est qu'elle attaque tout ce qui bouge et tout ce qui n'est pas comme elle.
Ouais, voilà.
Donc ça devient très 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 mal. Mais je vais vraiment t'entendre peut-être un peu avant l'élément perturbateur que Musk peut être. Avant que ça se déroule, comment t'expliques le fait que tu puisses être polarisant comme ça? Parce que tu sais, je lis ce que tu écris, puis je te trouve zéro zéro polarisant. À quel point puis tu mentionnes une phrase au hasard, mais ça, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Pourquoi?
Moi, ça fait partie, j'ai envie de dire, il y a plusieurs levels, il y a plusieurs niveaux de polarisation, enfin d'énervement. Je pense que déjà ça peut toucher tout le monde, c'est-à-dire que on peut être pas connu, juste écrire des messages, partager des trucs un peu sympas, et puis se prendre une vague de haine pour absolument rien, juste parce qu'on a dit un truc et voilà. Donc ça, c'est pas forcément lié à la notoriété, etc. Moi, j'ai pas une très grosse notoriété, mais j'en ai quand même une de par mon site, parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Donc je sais que, par exemple, je peux énerver certains types de personnes, parce que je vais pas parler forcément des logiciels que aiment, voilà, ce genre de choses, où je vais pas forcément aller dans leur sens tout le temps, voilà. Parce qu'il y a toujours des gens qui, peu importe le domaine, aiment bien aller dans les extrêmes, peu importe le domaine, hein. Donc ils vont pousser leurs convictions et ce qu'ils font dans leur réalité à eux, et ça va très bien marcher. Mais c'est pas forcément la réalité, par exemple, des entreprises, des gens qui sont pas forcément des super techniciens qui connaissent rien d'informatique. Voilà, c'est, et moi, j'essaye de m'adresser à tout le monde. Moi, je m'adresse au grand public, pas forcément à des gens qui sont dans des extrêmes technologiques, quoi. Et donc, bah, forcément, ces gens-là, je peux les agacer. Parce que si je commence à parler d'un outil avec une interface graphique qui est facile à utiliser pour Windows, eux, ils vont me dire, ah bah non, ton truc, c'est de la merde. Moi, j'ai mieux avec mon outil en ligne de commande sous Linux, open source. Ok, cool. Mais voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, le fait que ce soit sur ces réseaux sociaux-là, c'est pas juste une discussion comme ça, comme je viens de l'imaginer, mais c'est t'as écrit ça, tu mérites de mourir. C'est quasiment ça. On passe vraiment d'un extrême à l'autre, quoi. C'est voilà, c'est très violent, en fait. C'est très soudain. Donc après, c'est des vagues de, enfin c'est des messages plus que des vagues de haine, mais c'est des messages qui prennent un peu la tête, quoi, parce que c'est pas justifié, parce que c'est pas argumenté, c'est juste de la rage pour de la rage. Mais ça touche, en fait, ça touche plein de cordes sensibles, je pense, parce que il y a des gens qui se sentent, par exemple, dépossédés de leurs compétences technologiques parce que quelqu'un va faire un tuto facile à comprendre pour monsieur et madame tout le monde, et monsieur et madame tout le monde va pouvoir refaire la même chose que eux font et gardent de manière très précieuse, protègent en termes de connaissances. On libère les connaissances. Enfin, moi, j'aime bien vulgariser. Moi, tout ce que je connais, je le mets sur mon site. Donc, tout ce que je découvre, je le mets sur mon site. Donc, je garde rien pour moi. Donc, c'est vrai que quelque part, voilà, ils se sentent un petit peu dépossédés. Donc, ça réagit mal là-dessus. Mais après, il n'y a pas que ça. Ça peut être de la jalousie, je pense. Ça peut être, je sais pas, ou juste, ils aiment pas ma tête. Hein. Enfin, après, j'en sais rien. J'ai pas, voilà, il y en a aussi, je pense, qui oublient de prendre leurs médicaments. Enfin, voilà, il y en a qui ont trop de temps libre et que, voilà, ça les occupe. Puis il y en a qui sont, je pense, juste méchants par nature, quoi, toxiques, on va dire, par nature, et du coup, ça leur va bien. Donc après, c'est... moi, je suis pas médecin, ni psychiatre, ni quoi que ce soit, donc je suis pas là pour faire l'inventaire du bestiaire, comme je disais. Mais voilà, c'est surtout ça. Et en fait, le problème, c'est que moi, bah, ça me touche, parce que moi, je fais mes trucs dans mon coin, je m'attends pas à avoir forcément des réactions aussi virulentes, on va dire, sur des sujets un peu lambda. Et puis tout est bon à être critiqué, en fait. N'importe quoi, peu importe. L'image qu'on a mis, la phrase qu'on a écrite, s'il y a une faute, s'il y a une erreur, s'il y a pas le bon logiciel, s'il y a un outil plus facile à utiliser, s'il y a un meilleur outil qui existe et que j'en ai pas parlé. Enfin bref, tout peut être remis en question, critiqué, etc. Donc moi, ça m'a fatigué un petit peu et donc j'ai décidé effectivement d'arrêter de diffuser mon contenu sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai considéré que c'était comme donner de la... Je ne sais pas si tu connais l'expression, mais en France, on dit... peut-être qu'au Québec, on dit pareil, mais donner de la confiture au cochon. Voilà.
Bah, pas celle-là, mais on en a des similaires. Là,
voilà,
qui représentent l'image que tu veux. Oui.
Voilà, donc j'ai arrêté de faire ça et je me suis renfermé un petit peu, recentré sur ma communauté à moi. Donc, les gens qui me suivent sur Discord, les gens qui me suivent sur... voilà, autrement, quoi. Directement sur le site, sur mon Patreon, sur ce genre de choses, quoi. Et depuis, depuis, c'est pas mal parce que je me doute bien que ça continue dans un coin sur ces réseaux sociaux-là. Et en même temps, bah, j'y vais plus. Par contre, la désintoxication était pas facile. On pourra en parler aussi, ça, mais j'ai mis à peu près un mois voilà, j'ai essayé plusieurs fois avant de me désintoxiquer, mais j'y retournais. Et voilà, c'est un peu comme quand on est alcoolique ou quand on fume des cigarettes, c'est compliqué d'arrêter, quoi.
Oui, effectivement, c'est très compliqué. Mais là, le fait, c'est ça que le choix que tu as fait délibéré, c'est de migrer d'une communauté plus publique, grande, plateforme, oui. Plateforme vers des plateformes plus spécialisées. Là, tu mentionnes Discord, oui. Tu mentionnes que tu es sur YouTube aussi, puis tu es sur Patreon. Encore Patreon, c'est encore plus spécialisé parce que c'est des gens qui vont payer pour ton contenu en général. Fait que
c'est ça.
S'ils n'aiment pas ce que tu fais puis ils te payent, ben là, c'est un peu, ça devient un peu paradoxal. Mais c'est effectivement des axes plus intéressants. Puis j'aime bien, puis là, oui, la désintox, parce que c'est effectivement l'étape la plus difficile pour les gens de passer de genre, ma journée est constamment interrompue par des actions, des conversations, juste soit des notifications et des fois des notifications qui m'amènent à intervenir parce que j'ai été choqué. Fait que là, je vais intervenir pour prendre un peu les exemples que tu mentionnes. Ouais, tu as publié quelque chose sur une plateforme X qui a choqué quelqu'un, elle va se sentir et elle va se diriger vers ça et écrire quelque chose probablement dans le métro ou en train d'attendre ou en train, puis justement avec aucun contexte, puis juste parce que dans le moment, elle est fâchée de la situation qu'elle vit. On peut prendre le métro pharisien, tu peux être choqué très rapidement d'être dans cet endroit-là. Donc, si tu amènes la colère d'être dans le métro sur une publication qui est la tienne, ça va créer des effets un peu désastreux là, en termes de surstimulation puis de gens qui sont excités sur des choses qui devraient techniquement pas l'être.
Bah, c'est ça. Puis moi, ça me fatigue parce que c'est vrai que c'est chronophage, ça prend du temps, mais en même temps, ça prend la tête aussi, quoi. Et bon, j'ai déjà beaucoup de choses à gérer, j'ai déjà la tête bien remplie de tout un tas de trucs, voilà, et j'ai pas envie de me rajouter ça en plus en plus de gens que je ne connais pas, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, on se prend la tête pour des gens, on sait même pas si c'est des vrais gens, ça se trouve c'est des bots ChatGPT faits par la Russie, enfin, on sait rien du tout, on sait pas, c'est des randoms, ils passent, on les revoit jamais, et puis ils lâchent leur truc et ils repartent. Voilà, et on consacre du temps tous à répondre à ces gens-là parce qu'en fait, on n'aime pas quand une information est fausse. Quand quelqu'un dit un truc faux sur nous, bah, on a envie de répondre parce que c'est faux, parce que on sait nous qu'on n'a pas fait ça pour ça ou qu'on n'est pas méchant ou qu'on n'a pas qu'il n'y avait pas une malhonnêteté ou une mauvaise intention derrière ce qu'on a fait. Mais donc on doit toujours tout le temps se justifier, expliquer, etc. Et en fait, ça ne sert absolument à rien parce que même quand on se justifie, même quand on explique, même limite quand on prouve en montrant peut-être, je sais pas, une vidéo, un truc qu'on a fait avant qui prouve que la personne en face a tort, mais même ça ne suffit pas en fait. Donc, il n'y a rien à faire en fait. C'est peine perdue.
Oui, puis tu mentionnais, puis quand t'as grandi avec X ou Twitter à l'époque, tu parlais de communauté parce que ça avait effectivement cet aspect de communautaire-là. Moi, je suis arrivé sur ces plateformes-là en 2008, je crois.
Ouais.
Donc, dans les très débuts de l'existence de ces plateformes-là, où c'était plus... en tout cas, où il y avait moins de haine, comme on peut voir maintenant. L'aspect de bâtir une communauté, tu l'as bâti, tu as bâti la tienne, et comment on vit justement le passage, on a bâti une communauté, à celle-ci se désintègre, à on quitte la plateforme?
Bah, je pense qu'il y a toujours les gens qui sont abonnés à mon compte. Donc je pense que ça bouge pas. Si demain je reposte un message, ils sont toujours là, donc ça se désintègre pas forcément, mais j'ai quand même mis un petit message en disant « bon les gars, je m'en vais, donc vous pouvez me suivre sur d'autres réseaux ». Après, le trafic sur mon site web était pas... En fait, c'était bizarre, mais ça représentait à peu près, je vais dire, moins d'un quart. Moins d'un quart de mon trafic, voilà, en termes de visibilité. Donc, quand j'ai vraiment coupé tout du jour au lendemain, j'ai coupé aussi Facebook, j'ai coupé Blue Sky, Mastodon et X. Donc, tous ces quatre-là, je les ai stoppés complètement. J'ai perdu un quart de mon trafic à peu près, parce que mes contenus n'étaient plus annoncés dessus. J'avais quand même laissé un bot tourner sur un autre compte, mais j'avais oublié de le désactiver. Puis là, je l'ai désactivé récemment, mais il n'y avait pas beaucoup de trafic dessus, donc ça rapportait pas grand chose en termes de visites. Mais bizarrement, en fait, donc il y a une chute et après c'est remonté petit à petit. Le trafic est revenu. Je pense que quelque part les gens se sont peut-être rendus compte que, en tout cas pour ceux qui cliquaient et qui allaient lire que j'intéressais vraiment, ils se sont peut-être rendus compte que j'avais disparu et donc ils m'ont recherché et puis ils sont revenus d'une autre manière, soit avec le flux RSS, soit avec, enfin je sais pas, autrement quoi. Mais voilà, c'est tout. Après effectivement le reste, c'est les gens qui me connaissaient pas, qui voient un lien passer, qui cliquent et qui reviennent jamais. Bon bah voilà, mais c'est pas ça a pas changé, ça a pas eu d'impact en fait sur l'activité de mon site, en fait sur les revenus publicitaires, sur ça a pas eu d'impact là-dessus par exemple. Voilà.
Et ça, c'est bien que justement que tu puisses continuer à vivre décemment de ton métier, parce que c'est ça qui te maintient, ce qui met du pain sur la table. Puis c'est essentiel. Mais d'un point de vue personnel, la création de cette communauté-là, parce que tu parlais beaucoup d'interactions, notamment au début, qui était plus positive, qui s'est dégradée tranquillement. Comment on vit humainement la perte de cette communauté-là, ou cette capacité de communiquer de façon humaine, non toxique, vers d'autres choses?
Bah ouais, en fait, c'était dur, parce que en fait, déjà, j'avais ce réflexe, tu sais, comme je te disais, avec avec une cigarette, t'allumes une cigarette par réflexe. Bon, bah là, c'est pareil, j'avais le réflexe d'aller sur x.com, tu vois. Même si, des fois, sans m'en rendre compte, tu lances l'appli. Alors, bon, j'ai désinstallé l'application, j'ai bloqué le nom de domaine sur mon routeur, et mais j'ai bien fait, parce qu'en fait, j'y suis allé, tu vois. En fait, à chaque fois que j'y allais, c'était bloqué. Mais j'y allais par réflexe, j'y allais parce que voilà, j'avais envie de voir ce que les gens disaient. Et donc, je me retrouvais bloqué. Et après, tu sais, t'as la flemme, t'as pas envie d'aller débloquer le site sur ton routeur, donc tu le fais pas, et puis tu restes comme ça. Donc il y avait d'abord cette première partie-là, et puis ensuite, il y avait une autre partie où, effectivement, il y a des fois, j'avais envie d'échanger, en fait. J'avais envie de dire, regardez ce que j'ai fait, c'est cool, etc. J'avais pas forcément de plateforme pour faire ça, donc en fait, je le fais... Maintenant, je le fais un peu à cheval entre Discord, Patreon et LinkedIn. Voilà, je bascule de l'un à l'autre en fonction de ce que j'ai envie de dire, quand j'ai un petit truc à dire, ou quand je veux partager une réflexion, quelque chose, que poser une question, voilà. Mais c'est vrai que ça me manque un petit peu sur justement ça, là, pouvoir poser des questions, de dire « Ah, j'aimerais bien faire ça, est-ce que vous connaissez un bon logiciel pour le faire, ou vous avez un service à me recommander ?» Ça, c'est plus des choses que je peux faire, parce que avant, j'avais le volume d'abonnés pour faire ça, où j'avais des réponses intéressantes, etc. Maintenant, Discord, c'est plus petit, les communautés sont plus éparpillées, plus petites, donc j'ai plus forcément de retours comme ça. Donc maintenant, heureusement, il y a les IA pour poser ces questions, et on a des réponses, et elles recherchent en ligne, etc. Donc ça remplace un petit peu ça aussi. Ouais, oui, ça remplace aussi ça. On peut pousser un peu la réflexion plus loin que juste faire une requête sur Google, et voilà.
Ouais, perso, je suis pas tant fan de ces conversations-là avec la machine. Je préfère parler avec des humains, puis c'est aussi le centre de ma question, parce que X était à une époque un espace de conversation qu'on pouvait justement réalimenter un peu, comme tu mentionnes, parce que c'est un peu ça l'idée de ces réseaux-là. En tout cas, à la base, c'est un peu ça l'idée. Maintenant, ça a été complètement dépossédé de son objectif de base. D'ailleurs, pour ça que je suis sur Mastodon, justement, parce que c'est dans un univers qui revient, où il n'y a plus d'algorithme, où il n'y a plus rien, où les personnes que j'ai, puis il y a peu d'interactions, il n'y a plus de gens, j'ai plus d'interventions aléatoires qui arrivent, puis qui vomissent de la haine, là. C'est plutôt difficile de savoir ce genre de choses-là. Mais justement, l'espace de conversation, parce que c'était ça qui était le fun avec Twitter quand ses débuts, ouais. C'est qu'on avait cette conversation, des échanges comiques, des fois un peu plus agressifs, mais pas méchants. C'est ouais. Ça la différence entre les deux, c'est la méchanceté maintenant qui transcende à peu près tout ce qui existe. Que ce soit mécanique par des bots, ou que ce soit des humains qui sont effectivement dans un état de colère permanente, là, qui viennent faire ça, mais c'est l'aspect de communication et de communauté qui est particulier. Puis Mastodon, ben c'est pas X, tu peux pas créer des communautés là-dessus, tu crées dans une grande salle vide. c'est pas le même principe partout, donc ça nous amène ailleurs. Fait que c'est ça, c'est comme de replacer, puis ce goût-là, tu le fais avec le AI, mais comment les plateformes comme Patreon, Discord, ça t'amène quand même ce degré de conversation et d'échange que tu peux...
Dans les commentaires, c'est plutôt tranquille. Et il y a un truc dont je t'ai pas parlé aussi, mais ça, c'est très important aussi, c'est que plusieurs fois par semaine, je suis en live sur Twitch. Et ça fait du bien aussi, parce qu'en fait là t'es vraiment en direct avec les gens. Je joue pas à des jeux vidéo, hein. Je partage ma journée de travail, donc je partage mon écran, et puis je travaille et je montre ce que je teste, je montre ce que j'écris, je discute avec les gens, je réponds aux questions. Donc c'est vraiment un live pour c'est vraiment pour les gens qui sont en télétravail, voilà, c'est pas un truc pour des ados surexcités qui font du gaming, quoi. On est entre nous, on est, voilà, c'est des vieux qui discutent, quoi, en gros. Pour résumer, c'est un peu ça. Donc c'est plus tranquille comme ambiance. Et ça vient remplacer un peu aussi ce que j'ai apprécié avant sur X, parce que effectivement ces conversations-là me manquent en fait. En plus moi je bosse tout seul, j'ai personne, j'ai pas de collègues, j'ai personne avec qui bosser, donc je suis tout seul. Donc c'est vrai que les interactions sociales sont importantes aussi, surtout quand on a une passion commune. Moi, c'est l'informatique, mais c'est bien d'en parler. On s'échange, voilà, des astuces, on bricole. Moi, je leur montre des trucs aussi sur Twitch ou même sur Patreon, je fais des vidéos. Et puis, on échange comme ça, mais c'est moins massif que ce qu'il y a pu avoir sur X, parce que X, je posais une question, j'avais 50 réponses. Mais c'est bien aussi. Voilà, ça remplace un petit peu. C'est pas au même niveau, mais quelque part, je regrette pas parce que j'ai pas tous les à côté négatifs, en tout cas pour l'instant.
C'était la question de savoir à quel point sur Twitch tu vas avoir ce genre d'interaction, parce que malgré là aussi tu vas en avoir qui vont surgir et qui vont avoir, ou c'est trop d'efforts de faire d'aller jusque là, puis bon. L'effort filtre automatiquement le problème.
Bon, après quand c'est des insultes, des choses un peu sans cervelle, c'est pas un souci, c'est filtré, c'est modéré, je les vois même pas en fait, ça disparaît. Quand c'est quelqu'un qui vient et qui me confronte, c'est pas un souci parce qu'en fait je réponds. Moi j'ai rien à cacher, donc je réponds, j'explique, je montre, voilà. Il y a pas de, tu vois, ça se fait de manière sincère et en général ça se calme assez vite, quoi. Puis si ça part en insulte, après ça dégage, mais globalement voilà, c'est il y a pas de, enfin on peut discuter, quoi. Alors c'est une discussion qui est peut-être un peu déséquilibrée parce que moi je suis en audio, enfin on me voit en vidéo, je parle, les autres sont dans le chat, donc c'est pas au même niveau, mais voilà, c'est à part ça, parce que la discussion en plus écrite, c'est toujours compliqué d'expliquer quelque chose à l'écrit, surtout sur des formats très petits, avec pas beaucoup de caractères, pas beaucoup de mots. Et comme tout peut être toujours interprété différemment, des fois une phrase toute simple, on peut la lire et se dire ah bah là il est en train de se moquer de moi, ou là il est en train de me troller, ou alors qu'en fait non, c'est juste il répond à la question, il y a rien de mal. Et des fois on prend des choses mal qui sont écrites basiquement, mais ça manque peut-être d'un petit smiley, enfin d'un petit emoji, ce genre de truc. Mais voilà, alors qu'à l'oral, comme ça, en vidéo, je peux m'exprimer, je peux parler pendant 20 minutes sur le même sujet, ça a le temps d'être bien détaillé, ça a le temps, les gens ont le temps de voir si je suis sincère aussi, tu vois, parce que c'est de face à face, quoi, voir si je baratine, si je suis sincère, si je suis énervé, si, voilà, ça dépend des moments, quoi. Donc c'est plus humain, quoi, quelque part. On casse un peu le truc... tous derrière son clavier et tous derrière un pseudo à écrire des tweets qui sont écrits par ChatGPT. Enfin, tu vois, c'est un peu ça, quoi.
Ouais, avoir même ChatGPT, c'est un problème. Et effectivement, le problème de la plateforme de Twitter qui était à 140 caractères au début, qui monte à 280 à un moment donné, qui a doublé, qui était techniquement la même taille que les SMS qui s'envoient, donc qui étaient collés sur cette plateforme-là. En termes de communication, et les SMS, c'est important ici dans le contexte parce que cette fenêtre de communication-là est petite et les gens reçoivent la communication dans l'état d'esprit qu'ils le sont et non dans l'état d'esprit dans lequel le message est envoyé. Puis effectivement, comme tu le mentionnes, quand t'es au verbal, la personne peut voir l'état d'esprit dans lequel tu communiques ton message et non... Elle prend pas dans l'état d'esprit. En tout cas, elle peut le prendre dans l'état d'esprit dans lequel elle est, mais au minimum, elle voit l'état d'esprit dans lequel il est envoyé. Dans quel cas, par écrit, ça ne se fait pas. Et à 140 caractères, on oublie ça. Là, c'est juste. Ouais, c'est une des raisons pourquoi je déteste Blue Sky, par exemple, parce qu'il imite l'ancien Twitter avec des limitations qui sont beaucoup trop petites. Et t'as même pas le temps de développer une explication de ta position qui fait que ça va être mieux reçu que tu vas juste envoyer trois mots, puis c'est plein, là.
Ouais, c'est vrai.
Donc, ça limite. Donc, c'est intéressant de voir effectivement le petit volet humain que tu mentionnes qui ramène un peu peut-être justement le volet moins écrit, mais c'est intéressant que tu aies utilisé Twitch comme ça. Y a-tu d'autres plateformes que tu vas utiliser là, parce que on les découvre au fur de la conversation ou tu comme après, Patreon que tu utilises ou YouTube, je pense que tu diffuses aussi sur
Ouais, mais après c'est moi je vois pas YouTube ou même TikTok comme un réseau social en fait, tu vois, c'est enfin les gens rangent ça dans la catégorie réseau social. Bon YouTube c'est un peu particulier, c'est une plateforme vidéo mais moi je pars du principe que ce sont pas des réseaux sociaux parce que ça demande un effort, tu vois. Quand tu fais une vidéo sur TikTok, bon bah en général tu prends un petit peu de temps, t'allumes la lumière, tu prépares un truc et tu fais ta vidéo, donc tu deviens quelque part créateur de contenu. Même si t'as 3 abonnés et que tu fais 2 vidéos par an, t'es quand même dans une démarche un peu de proposer quelque chose, pas juste de commenter quoi. Et c'est pareil avec YouTube, c'est pareil avec Instagram, tu fais des photos, t'essayes qu'elles soient jolies, t'es pas là juste pour commenter ce que font les autres. Alors que sur ces plateformes de microblogging, t'as pas besoin d'être talentueux, t'as pas besoin d'être créatif, t'as pas besoin d'être sympa, t'as besoin de rien en fait, t'as juste besoin non, mais vraiment t'as besoin de rien, même pas d'intelligence ou de réflexion, tu peux absolument écrire ce que tu veux n'importe comment. Voilà, des fois on reçoit des messages, c'est cryptique, on comprend rien, on sait même pas si c'est une insulte, si c'est un compliment, si le mec est fou, si on sait pas en fait, on comprend pas quoi. Et enfin voilà, donc c'est pas la même démarche, donc c'est pour ça que je distingue un peu ces choses-là. Et LinkedIn, c'est un peu particulier parce que LinkedIn, on est plus dans un cadre professionnel, on a vraiment le nom des gens avec leur poste, leur job, etc. Donc quelque part, si ils se lâchent trop dans la haine, etc. Ils font plonger tout le monde, ils font plonger leurs collaborateurs, ils font plonger leur boîte, ils plongent eux-mêmes parce que leur nom est connu. Enfin. Donc il y a plus d'enjeux sur LinkedIn parce que il y a tous ces liens professionnels qui sont créés, etc. Alors que sur les plateformes de microblogging, c'est très bien aussi. Hein. On a un pseudo, il y a de l'anonymat, alors relatif évidemment, mais on est publiquement, en tout cas, on n'est pas obligé d'afficher son nom. C'est très bien aussi, mais du coup, ça engendre aussi un peu ce genre de dérive forcément.
Par l'absence de choses. Revenons, disons, on va prendre LinkedIn que tu as mentionné. Quel genre d'interaction tu vas aller chercher? Justement, là, tu as parlé de Twitch, comment tu vas chercher? Une plateforme écrite, on parlait le problème de la plateforme écrite, c'est qu'on comprend pas nécessairement l'intention du rédacteur et c'est peut-être mal reçu. Comment c'est ça? Puis malgré le fait, parce que j'en ai vu des affaires sur LinkedIn qui sont pas nécessairement positives, comment ça se vit malgré le filtre un peu plus naturel sur LinkedIn?
Alors moi, LinkedIn, je l'utilisais pas trop. Avant, je suis pas très fan de base, mais là c'est purement pour essayer de trouver des nouveaux annonceurs sur mon site, tu vois. C'est pour me faire voir, c'est pour montrer que le site existe toujours, c'est pour montrer que j'ai des choses à dire, etc. Donc c'est souvent reprendre un peu ce que j'ai mis en article et le partager sur LinkedIn. C'est pour gagner en visibilité en fait. Et puis il y a un truc que je fais pas sur mon site et que j'avais envie de faire cette année, c'était de partager un petit peu les coulisses. En fait, de mon activité. Et c'est pas quelque chose que je partage publiquement parce que les gens peuvent pas. Enfin, les gens qui ne sont pas dans la technologie, dans le web, voilà, vont pas forcément y trouver d'intérêt, vont pas forcément comprendre les enjeux ou ce dont je parle. Donc, c'est pas des choses dont je parle forcément sur le blog publiquement parce que ça fait très. Ça fait très regarder le nombril, en fait. Ça fait très égocentrique. Alors que sur LinkedIn, c'est un peu mieux vu de faire des retours d'expérience, de parler de ce qu'on a fait, de j'en vois qui expliquent combien ils ont gagné. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça et ça passe mieux. Et donc, j'avais envie un peu de partager ce que je faisais professionnellement plus que sur LinkedIn. Donc, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Mais après, je sais que c'est pas non plus le réseau, c'est pas bisounours non plus quoi. C'est aussi voilà. Mais bon, c'est comme ça quoi. À partir du moment où il y a des humains, de toute façon, c'est compliqué quoi.
Nécessairement très très compliqué. En off, tu m'avais parlé de quelques cas très particuliers que tu as vécu justement, que tu avais énervé des gens, puis ça l'a donné des cas très particuliers. J'aime ça que tu relâches un peu parce que des fois, c'est pas toujours perceptible par les gens, par la conséquence des gestes qu'ils posent. Puis, tu sais, il y en a qui sont fâchés, mais qui sont quand même sains d'esprit, somme toute. Fait que juste de relativer l'impact de ces gestes-là qui sont parfois démesurés par rapport à ce qu'ils ont lu, là, disons. Là.
Ouais, bah après, il y a eu. Enfin, moi, j'ai vécu différents épisodes. J'ai déjà été cyberharcelé, mais c'était il y a longtemps, c'était dans les années 2009-2010, donc c'est un peu vieux. Puis c'était à une époque où ça n'existait pas le cyberharcèlement officiellement, quoi. Personne n'en parlait, donc c'était compliqué pour moi à ce moment-là. J'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. Là ça va, mais voilà, c'est, ça a mis du temps, mais vraiment plusieurs. En plus, ça a duré plusieurs années, donc tu vois, c'était costaud. Et puis ensuite, après c'est qu'en fait le problème, c'est que tu sais jamais qui t'es en face de toi. Donc il suffit que tu énerves quelqu'un, et voilà, comme ça. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec mon adresse postale, enfin mon adresse de chez moi publiée sur X. Je me suis déjà fait livrer des pizzas, quelqu'un a livré des pizzas chez moi toute une soirée. Il y a des gens aussi, je sais pas, enfin après qui relaient à d'autres gens pour faire un peu des appels à des réactions ou attirer un peu la haine. Donc en fait, ils relaient le truc auprès de leur communauté, en tout cas pour essayer de que tout le monde me tombe dessus. Voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Mais après, c'est voilà, ou des trucs. Un peu bizarre, quoi. Il y en a un jour qui m'a je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui m'a jeté un sort, quoi. Enfin, moi je crois pas à tout ça, en fait, hein. Donc il m'a pas vraiment jeté un sort, mais il m'a écrit qu'en gros il m'avait marabouté et que ma vie ça allait être un truc à partir de maintenant, ça allait être ça allait être l'enfer pour moi, quoi. Donc bon, je crois pas à ces conneries, mais si tu veux, c'est toujours bizarre, tu vois. C'est compliqué, quoi. Voilà. Puis après, c'est aussi toutes les bêtises que les gens peuvent raconter, parce que comme ils me connaissent pas, ils ont rien sur moi, ils inventent des choses. Donc après, c'est des trucs que des lecteurs innocents, on va dire, ça me revient aux oreilles au bout d'un moment, et puis je suis obligé de rétablir la vérité, mais tu vois, c'est des fausses rumeurs, des trucs comme ça, des intentions qu'on me prête qui sont pas justes. Voilà. Mais bon, globalement, c'était ça. Moi, par exemple, l'épisode des pizzas, j'avais prévenu la police aussi. J'avais dit, je suis embêté, on me fait livrer des pizzas, ça vient de Twitter, et voilà. Bon, j'ai pas eu beaucoup de secours de la part de la police, à part, vous devriez arrêter d'être sur Twitter. En gros, c'est nul, vas-y, arrête, ferme ton compte.
C'est l'espèce de solution qui est pas une solution, là.
Ouais, mais bon, après, j'ai laissé tomber, parce que je me suis dit, je vais pas commencer à l'expliquer, que j'en ai besoin pour vivre, que c'est mon activité, que je partage mes articles dessus, il va être dépassé, donc c'est pas la peine. Donc bon, j'ai vu que ça sert à rien, mais au moins, je voulais quand même prévenir, parce que j'avais pas envie, après, d'avoir une plainte des vendeurs de pizza parce que j'avais pas payé les pizzas, quoi. Donc je voulais faire quand même un petit truc, quoi. Mais voilà, après c'est ça. Puis après il y a des gens qui envoient des messages et tu te dis, si je commence à leur répondre, ils vont venir me tuer, en fait. C'est un peu ça, quoi. Il y en a un jour qui m'a dit qu'il allait me planter, voilà. Donc bon, bah pareil, mais après j'ai rien fait, hein, tu vois. J'ai pas prévenu la police, j'ai rien fait du tout. Je me suis dit que c'était que du flan, enfin que c'était que des paroles. Mais peut-être que maintenant je le ferai, parce que ça a changé. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui seraient capables, en fait. Alors, de me planter, moi, je sais pas, mais peut-être d'autres personnes. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment des gens dangereux aussi. Et qu'il faut faire attention. On peut pas non plus, nous, réagir et insulter tout le monde parce qu'on reçoit quelque chose de mauvais. Donc, en général, je réponds pas, je réagis pas, parce qu'en fait, je sais pas qui est en face de moi. En fait, on sait pas. Donc, ça peut être juste un troll, quelqu'un qui veut me taquiner ou me faire peur, ou voilà, ou ça peut être vraiment quelqu'un qui va sortir de chez lui et qui va essayer de me trouver. On peut pas savoir. Donc en fait, moi, ça me fait un petit peu peur, ça, en fait, effectivement. Donc c'est pour ça que bon, j'évite maintenant tout ça aussi.
Ouais, ben on voit beaucoup l'augmentation de violence, effectivement, nous amène à ce constat-là, malheureusement, maintenant. Là, on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en France notamment, où les gens sont beaucoup plus tendus et vont réagir physiquement beaucoup plus rapidement sur des choses qui sont, somme toute, relativement banales, mais l'état d'esprit global à l'heure actuelle est tellement rendu agressif que les gens surréagissent très, très, très rapidement. Puis d'ailleurs, on voit, il y a quelques cas aux États-Unis qu'on voit où les gens réagissent vraiment trop rapidement, mais ça crée la situation dans laquelle, malheureusement, on est en train de vivre.
Ouais.
Tu as parlé de rétablir la vérité, puis ça, c'est un aspect intéressant. Puis il y en a certains créateurs qui le font vraiment ouvertement sur les réseaux sociaux, ce genre d'espèce de guerre. Puis il y en a eu une en France, d'ailleurs, puis il n'y a pas si longtemps que ça, de deux créateurs qui se sont séparés de façon acrimonieuse et qui ont commencé à... et ont décidé d'utiliser leur plateforme pour chacun de leur côté de rétablir ce qu'eux appellent leur vérité. Tu mentionnais justement, tu dois des fois le faire l'exercice de rétablir la vérité, pas tout le temps. Et c'est quoi, le moment où tu le fais, pourquoi et dans quel objectif justement? Parce que des fois, moi, c'est rare que je vais aller dans cette... certainement, je vais jamais dans cette zone-là parce que je n'ai pas besoin. Mais comprendre un peu le processus qui... Et pour toi, la nécessité, parce que c'est un appel intérieur de le faire aussi.
Ouais. Alors oui, je le ressens, vraiment. C'est important pour moi. Alors après, je le fais pas de manière frontale. C'est-à-dire que je vais pas commencer à aller insulter l'autre, à donner son nom. Quelque part, je vais pas commencer à lui faire de la publicité gratuite. Mais ça m'arrive de... Alors, j'en parle sur Twitch. Librement, voilà, je dis ah bah vous avez pas vu, il y a l'autre là, il m'a dit ça et voilà, bon voilà, mais on est entre nous quelque part, donc ça reste limité, et puis c'est des lives après qui restent pas, donc il y a pas de replay tout ça, donc c'est juste sur une conversation et puis donc ça, ouais, ça m'arrive un peu de me justifier un petit peu, mais plus auprès de ma communauté en disant oh, il a écrit ça mais en fait c'est pas vrai les gars, regardez ce que je fais en vrai, il se trompe ou il dit des bêtises ou il est méchant quoi, mais c'est plus pour que les gens comprennent que ce qui est écrit c'est faux, que voilà, donc après je le fais pas tout le temps, mais quand c'est important je le fais. En général, la réponse que j'ai des gens c'est bah soit ils étaient pas au courant, ils ont pas vu et ils s'en foutent, soit bah ils savent très bien qu'ils peuvent me faire confiance sur tel ou tel point, donc ils ont pas de souci avec ça, même s'ils voient quelqu'un écrire des conneries, ça les touche pas. Donc voilà, c'est vraiment purement moi en fait hein, qui surréagit peut-être un petit peu des fois et qui me justifie comme ça. Mais j'en ressens le besoin. Donc parfois je rajoute un petit truc dans ma FAQ sur mon site. Parfois je balance une petite pique. C'est toujours sans mentionner, mais un petit message caché quelque part dans un article pour envoyer un peu la balle. Mais c'est plus pour me défouler moi que pour lancer une guerre ou pour que l'autre vraiment le voit et le lise et tout ça, parce que de toute façon la communication est rompue de base, il n'y a pas de communication, parce que c'est le problème aussi avec Internet, c'est qu'en fait à chaque fois que c'est parti en cacahuète pour moi, que c'est parti c'est que en fait je veux dire je dois être la personne la plus accessible, on peut m'envoyer un mail, je réponds. Je suis en live sur Twitch, on peut me...
Je confirme que tu réponds.
Voilà, on peut me confronter directement. Il y a plein de gens qui ont mon numéro de téléphone. On peut me contacter sur tous les réseaux sociaux quasiment. C'est vrai que maintenant, je vais plus sur X, mais voilà, on peut m'envoyer un message sur LinkedIn. Enfin bref, je suis assez joignable. C'est facile de me joindre. Et souvent, les gens le font pas. Et en fait, ils préfèrent aller écrire un truc sur leur blog à eux ou sur leur réseau social à eux pour me condamner ou critiquer un truc que j'aurais dit, que j'aurais fait ou je sais pas quoi, avant de venir m'en parler, en me disant « Hey, j'ai vu ça, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien, t'es méchant, nanana. » Pour pouvoir après, moi, bah, juste discuter avec eux, leur expliquer. Dire voilà, là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, il y a un lecteur qui m'a écrit, enfin qui m'a fait un mail qui était très ChatGPT, mais bon, l'intention derrière était humaine quand même, où il critiquait l'un de mes articles, parce que quand je parle de Tesla, je défonce Elon Musk et je défonce Tesla. Pour le fun, parce que j'aime bien. Je suis pas très objectif sur le sujet, mais en même temps, j'ai pas besoin d'être objectif, je suis pas journaliste, je m'en fous, je dis ce que je veux, donc voilà. Et donc, il venait défendre Elon Musk, et je lui ai dit, t'as raison, c'est vrai, j'abuse, je suis pas objectif du tout, j'ai critiqué, effectivement, ce que tu me dis sur la voiture, là, t'as raison, objectivement, c'est vrai, t'as raison. Je ne suis même pas rentré dans le truc à me défendre ou quoi que ce soit, mais voilà, je lui ai dit, je suis pas objectif. Le mec a fait des saluts nazis, moi je peux pas être objectif.
Ouais, non, je comprends. Puis tu sais, j'ai débranché toutes mes plateformes qui sont associées à lui justement parce que par rapport à mes valeurs, plus ça avait une question de valeur.
Ouais, c'est
je me suis retiré de ces environnements-là parce que c'est pas aligné avec mes valeurs et je mets mon temps et mon énergie où mes valeurs sont et pas, c'est ça. Pas contraire.
Et souvent, en fait, ces gens qui ont un problème avec moi sans que je le sache, en fait, la plupart du temps, ils viennent pas vers moi. Ils me contactent pas, ils essayent pas de régler ou de me poser des questions ou même d'en savoir plus, quitte après à faire un article sur leur site en disant je l'ai contacté et c'est vrai, c'est une pourriture. Non, en fait, ils y vont direct, ils écrivent direct un truc. Peu importe le site, la plateforme, un commentaire ailleurs sur un autre site, enfin peu importe, ils y vont, ils viennent jamais chez moi quoi, ils viennent jamais ni dans mes mails, ni sur mon live Twitch, ni dans des commentaires sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ils vont ailleurs et puis ils écrivent n'importe quoi. Et donc du coup, je me dis voilà, c'est un, et je sais jamais pourquoi c'est fait en fait. Je sais pas s'ils le pensent vraiment, je sais pas s'ils essayent d'attirer du trafic sur leur site. Je sais pas si c'est pour bien se faire voir, pour prendre une espèce de posture en disant « Regardez, moi, je suis pur et lui, c'est une ordure. » Je sais pas, en fait, ce qu'il cherche. Mais c'est pas grave. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je me justifie un petit peu des fois parce que justement, il n'y a pas cette communication, en fait, tu vois. Et j'ai envie de répondre. J'ai envie de dire « Tu te trompes » ou « Voilà, mais je peux pas, quoi. » Donc, je peux pas parce qu'en plus... ce serait aussi donner de la visibilité au problème, c'est de l'effet Streisand, tu vois, c'est t'augmentes, tu fais augmenter le problème juste en parlant, et donc j'essaie d'éviter ça aussi au maximum.
Oh ouais, non, je comprends, puis c'était un peu voir, puis je trouve ça toujours fascinant ces espèces de grandes, quand les deux créateurs prennent leur plateforme pour s'attaquer mutuellement ou
en tout cas bref. C'est encore différent, mais ouais, ouais.
Mm. Ouais, ça c'est un peu autre là, c'est pas des quelqu'un seul, mais encore là, ces situations-là arrivent. C'est un exemple extrême que je mentionne justement pour
oui.
Aborder cette chose-là.
Mais les gens étaient contents hein, de ça. Hein. Les gens ont apprécié ça. Il y avait du sang, il y avait des jeux. Enfin, c'était très romain, quoi. Les gens ont adoré. Même moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo de Sylvain que tout le monde a vue. Enfin, voilà. Oui. Mais c'est pas bien parce que ça fait appel à nos plus bas instincts. On a envie que ça castagne, quoi. On n'a pas envie. Enfin, on a envie, en même temps, on n'a pas envie. On se dit, c'est pas bien. Puis on regarde quand même.
Ouais, ça a saigné. Puis en plus, que sa vidéo, tu sais, c'est un créateur. Donc, sa vidéo était léchée comme un créateur aussi. Fait que quand tu penses à ça, justement, comme quand sur TikTok, tu prends du temps. Lui, il a vraiment pris du temps de s'arrêter, d'installer ses caméras, sa lumière, de préparer un fil conducteur parce que clairement, il était préparé d'avance. Donc, ouais. Il investit beaucoup de temps pour arriver à faire ce genre-là. C'est pas une réaction à chaud qu'il a faite, là, mais zéro, là. Mais c'est de voir à quel point, puis là, c'est arrivé comme ça. Le fait que ça soit pas une réaction à chaud aussi, t'es un peu, c'était ça un peu plus. C'est comme, tu l'écoutes, c'est le fun, mais là, t'es comme, ouais. on revient du pain et des jeux, là.
Oui, ben c'est ça. Ouais.
Ça vous avez cette ça, le côté très reptilien de très, ouais. Très de base.
Ouais. On est tous puis, pareil. Bon, hein.
c'est un peu ça, mais c'est mal. Pour pas faire ça, c'est justement c'est la source du problème que tu mentionnes justement qui t'a amené à quitter les réseaux sociaux. On va boucler sur le dernier bout sur la détox parce que t'en as parlé sur le fait que t'as coupé l'accès physique chez vous, donc ça permet de limiter le fait de t'exposer par accident à cet élément-là. Mais c'est compliqué de sortir, c'est pas facile et humainement ça vient gratouiller aussi des choses à l'intérieur parce que ça. On s'y habitue et on aime, puis c'est quasi aussi toxique que de la nicotine, par exemple, d'arrêter de fumer, que de quitter les réseaux sociaux. Fait que je vais voir t'entendre là-dessus un peu.
Ouais, bah moi, c'est même pas tant les réseaux sociaux en eux-mêmes, c'est-à-dire c'est pas j'ai pas peur de rater quelque chose, en fait. C'est le fameux FOMO, là, dont tout le monde parle, mais voilà, c'est pas vraiment ça. Moi, je pense que j'ai une addiction aux commentaires, en fait. Une addiction à la critique, une addiction à ce que les gens peuvent dire sur ce que j'ai écrit, sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai créé, quoi. Et voilà, et ça, c'est difficile pour moi de m'en détacher, parce que si je partage tout ce que je fais depuis 20 ans, enfin plus de 20 ans, c'est aussi parce que j'aime bien des retours, quoi. J'aime bien que les gens soient contents, j'aime bien que les gens apportent aussi des choses, j'aime bien... voilà, tout ce que ça a produit derrière, j'apprécie, quoi. Et donc, je suis un petit peu accro à ça. Et c'est vrai que même les commentaires négatifs, bah, je suis accro, en fait, aux commentaires négatifs aussi, tu vois, quelque part. J'ai envie de savoir ce que les gens pensent, pourquoi ils le pensent, etc. Mais c'est une illusion parce qu'en fait, les commentaires, globalement, c'est quand même souvent construit sur rien, en fait. Tu vois, c'est, il n'y a pas vraiment de fond, c'est pas très, c'est pas des critiques constructives, qu'elles soient positives ou négatives, c'est pas très constructif. C'est, ah, cool, j'adore, merci, ou c'est, tu mérites de mourir, mais il n'y a pas de, il y a pas de juste milieu. Enfin, c'est rare,
c'est extrême, ça. C'est, tu mérites de mourir parce que t'as écrit un article qui ont fait l'éloge de,
j'exagère un petit peu, mais. Mais comme c'est un peu, voilà. C'est un peu ça, quoi. Mais bon. Puis après, il y a beaucoup aussi de commentaires, idiots. Alors, je dis idiots, mais en fait, je sais pas s'ils sont rédigés par des bots IA ou par des vrais humains. Mais j'en vois, par exemple, sur LinkedIn assez souvent. Tu partages un contenu et en fait dans le commentaire il y a quelqu'un qui va quelque part critiquer, en tout cas, enfin pas critiquer mais donner un point de vue qui a l'air intelligent sur ce que t'as écrit au premier abord, mais en fait c'est juste une reformulation de ce que t'as écrit où tu vois qu'il a même pas lu l'article en entier, en disant oui mais t'as pas parlé de ça, alors qu'en fait si, c'est mentionné dans l'article, mais il l'a zappé, soit il l'a pas vu, ou alors il va reformuler avec d'autres mots, il va dire oui, et aussi je pense que, et puis là il va redire sous une autre forme ce que t'as écrit, en fait, tu vois. Donc on sait jamais trop s'il y a vraiment, enfin voilà, des fois les gens en fait sont là aussi pour se faire voir, pour être les premiers à poster, pour faire du reach, comme on dit. Je sais que les Québécois, vous n'avez pas qu'on utilise des mots en anglais, mais je...
C'est parce qu'il est très mal prononcé, en l'occurrence.
Ah, pardon.
En plus, c'est peut-être pas autant l'usage du mot anglais que sa prononciation qui est complètement désastreuse.
Pardon.
Mais bon,
je connais pas le mot en français, donc je sais pas comment on dit ça, mais bon, la visibilité.
C'est de la portée ou de la visibilité, voilà, ou des choses comme ça. Ouais. Ouais. Oui, on est institutionnellement forcé de parler plus français, mais c'est-à-dire l'usage de l'anglais est très présent.
Oui,
je me doute. C'est un mythe, là, c'est le fait qu'on est très à cheval sur ça, là. Je suis rarement outré, surtout quand on va à Montréal, c'est du franglais, il y en a énormément, oui, et c'est assez particulier, ce genre, mais bref. Mais on dit plus du reach que du reach. Mais bon, bref, fermons la parenthèse, continuons.
On va rien dire. Alors, voilà. Et donc, du coup, ouais, y a ça aussi, en fait, sur la qualité, en fait, des commentaires, quoi. Donc, voilà, et j'ai perdu un peu le fil de la conversation.
C'est trop amusé. Ouais, c'est les gens qui font juste utiliser les commentaires. Puis effectivement, sur LinkedIn, c'est juste performatif. C'est-à-dire que les gens ne sont là que pour exister et non pour amener à la conversation. Puis ça, c'est notamment pour ça, personnellement, que j'ai arrêté de commenter beaucoup sur LinkedIn, parce que tu poses un commentaire qui veut amener la conversation et la personne a clairement même pas lu on parle même pas lu du commentaire et réagit par rapport à son article initial et revient sur son point, me dit oui, mais j'aimerais qu'on en discute justement de ce point. Pas que je jaillis ton point, mais je veux juste qu'on puisse le mettre en contexte et peut-être éclairer les aspects. Puis ils reviennent. Fait que là, tu fais comme, bah non, je pense qu'on n'est pas à bonne place.
Et, ouais. Et du coup, pour repartir sur l'addiction dont tu parlais, enfin, c'était ça la question à l'origine, c'était sur l'addiction. C'est vrai que moi, c'était ça, en fait. C'est vraiment une addiction aux commentaires. Voilà. Et donc, détacher de ça, c'est important. Et après, c'est pour ça que j'ai mis des filtres, en fait, parce que j'y allais par réflexe, par habitude, par... tu sais, comme t'essayes d'arrêter de manger du sucre, et puis tu vas passer trois fois devant un paquet de gâteaux, et puis tu vas en prendre un sans même t'en rendre compte. En fait, ton cerveau va se débrancher, tu vas l'avoir dans la bouche, puis tu vas dire, ah, mince, zut, bon, allez, je le finis. Voilà, c'est pareil, quoi. Voilà, c'est un peu ça, en fait.
Ouais, mais puis je trouve ça très intéressant parce que tu as quand même souligné le fait que quand tu es un créateur, l'objectif, c'est quand même de communiquer. Donc, il y a quand même un flot de retour qui est là, qui est présent. Puis les gens ne le voient pas, ou en tout cas ne pensent pas que c'est comme ça, parce que on crée pas pour créer, on crée parce qu'on veut laisser quelque chose et d'avoir une interaction avec les autres. Parce qu'on crée pas dans le vide, là. C'est un peu absurde de créer dans le vide, là. Parce que la satisfaction n'est qu'égocentrique à ce moment-là, mais le but, c'est qu'on est un animal social, donc c'est justement d'aller avec l'autre, de nous ramener, puis justement, là, ça devient moche de ne plus être capable d'aller dans cette...
C'est ça, ouais. Et moi, je crée dans le vide, hein, clairement, parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai enlevé les commentaires aussi sur mon site. Je les ai enlevés, c'est un peu la même démarche, en fait, quelque part. Je les ai enlevés pas parce que j'avais peur de la contradiction, ou parce que j'avais peur des critiques ou des insultes ou quoi que ce soit, que j'avais un anti-spam, etc. Je les ai enlevés, en fait, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y en avait trop. Donc, en fait, ça faisait ça faisait planter mon serveur, en fait, tu vois, ça, c'était purement technique. C'était compliqué à gérer, quoi, techniquement. Puis j'étais pas encore bien hébergé comme maintenant, donc c'était plus compliqué. Mais vraiment, ce qui m'a décidé, c'est qu'en fait, ça crée une mauvaise ambiance. Un peu comme sur X, en fait, une ambiance toxique. Pas envers moi, mais les gens, en fait, entre eux. Dans les commentaires, les gens, entre eux, c'était toxique. Parce que il y avait... Parce qu'en fait, il y avait d'un côté des débutants, des gens qui posaient des questions peut-être un petit peu bêtes, peut-être un peu naïfs, qui connaissaient pas forcément le sujet, donc ils posent des questions, quoi. Enfin, c'est gentil, quoi. Ils disent merci, ils posent une question. Voilà. Et en face, il y avait des super experts qui savent tout et tout mieux que tout le monde et qui venaient se moquer d'eux, faire des réponses sarcastiques, les troller. Voilà. Et en fait, du coup, les autres en face s'énervaient. Enfin, en fait, ça faisait une espèce d'émulsion négative comme ça, ou voilà. Et je trouvais que ça allait trop loin parce qu'après, ça partait en insultes, même des trucs racistes ou des trucs, voilà, peu importe, mais enfin des trucs horribles, quoi. Un peu, vraiment, un peu comme sur X. Hein. Alors, à une moindre échelle, évidemment, mais c'était toxique, quoi. Et je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas si les gens qui enfin, si mes haters étaient déjà, pareil, je l'ai pas bien prononcé, hein, mais mes haters étaient déjà dans les commentaires justement pour critiquer tout ce que j'écrivais et critiquer tout ce que les autres écrivaient en dessous, ou si c'était vraiment des lecteurs qui m'aiment bien, qui viennent critiquer ce que d'autres écrivent, etc. Mais bon, je m'en sortais pas en fait. C'était vraiment, moi, ça me plombait aussi le moral en fait, ce genre de choses, quoi. Et j'ai toujours un peu fui les communautés, un peu comme ça, les forums, les chats. Etc. Même si je fais des petites exceptions pour Discord parce qu'on est vraiment pas nombreux, mais en fait moi peu importe où je me suis retrouvé sur des forums ou oui des chats des choses comme ça, au bout d'un moment ça part toujours en cacahuète, quoi. Il y a toujours des révolutions, il y a toujours des putschs, des prises de pouvoir, des engueulades, c'est la guerre, quoi. Voilà, c'est la guerre sur Wikipédia, c'est la guerre sur Reddit, c'est la guerre sur Stack Overflow, c'est la guerre partout en fait. Donc moi j'avais pas envie que ça soit la guerre dans mes commentaires et donc je les ai enlevés, voilà. Et j'ai dit aux gens bah maintenant vous pouvez me répondre, on peut communiquer mais sur Twitter. Et puis maintenant on peut plus. Donc maintenant c'est venez sur Twitch, venez sur Patreon, venez sur Discord et puis voilà, ou dans mes emails directement.
Ouais, c'est plus facile de filtrer comme ça. Puis effectivement, je sais pas, c'est très difficile d'avoir une communication bienveillante à l'écrit. Déjà que les gens, puis là, c'est un malheureux constat, les gens ont de la difficulté à s'exprimer, déjà de un. De deux, de le faire par écrit, c'est déjà compliqué. Et ouais, de réussir à faire un écrit qui est bienveillant, c'est encore beaucoup plus complexe. On n'est pas outillé pour faire des écrits bienveillants. On est plus pour faire des écrits pour nous débarrasser. Là,
Ouais. Puis il y a un truc que tu n'as pas mentionné, c'est qu'en fait, la différence entre moi, ce que j'ai mis en place, par exemple sur Discord, sur Patreon ou même Twitch, c'est qu'en fait, que quand tu écris quelque chose, personne ne le voit. Enfin, les gens qui sont là présents le voient, mais, et moi je le vois, mais ce n'est pas quelque chose qui va te servir pour bien te faire voir de ta communauté, des gens qui te suivent, tu vois, tu peux pas jouer au chevalier blanc, tu peux pas jouer à être le chef, le boss, etc. Donc de base, du coup, le commentaire, il est là pour apporter quelque chose, positif, négatif, mais il est pas là pour servir l'ego de la personne qui le poste. Alors que un espace commentaire sous un article, un message sur X, un message sur Blue Sky, etc. C'est vraiment des endroits où en fait les gens écrivent des réponses, des choses, pas pour participer à la discussion, mais vraiment pour leur ego en fait, pour bien se faire voir, pour montrer que ils sont plus intelligents que tout le monde, ou ils sont plus rebelles que tout le monde, ou ils sont plus je sais pas quoi. Et en fait, et c'est ça le problème en fait de ces plateformes, c'est que ça mélange les deux en fait. Ça mélange la discussion et le fait de poster un message pour en tant que faire valoir, quoi, pour bien se faire voir. Et c'est pour ça qu'en fait on s'entend plus, parce que tout le monde poste tout n'importe quoi pour flatter son propre ego en fait, pour se mettre en avant, etc., quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment le problème, en fait. Parce que quand on a une conversation en privé à deux, il n'y a pas de raison de s'énerver comme ça, parce que, voilà, il n'y a personne à prendre à partie en disant, regarde, défoncez-le, moi j'ai raison, etc., ou je suis plus intelligent que lui, ou je sais pas quoi. Et C'est vrai que sur des espaces comme Patreon, Discord, etc., oui, les gens peuvent voir ce qu'on écrit, mais ça reste des espaces un peu privés, il y a moins de monde. Et puis surtout, c'est pas des espaces où les gens ont un profil avec un nombre d'abonnés, ou un profil avec... Enfin, il n'y a pas d'intérêt pour eux, en fait, au niveau visibilité, quoi. Enfin, ça leur apporte rien d'être sur mon Discord en termes de visibilité. Peu importe, quoi. Et pareil sur mon Patreon. Donc... je pense qu'il y a cette échelle-là aussi à prendre en compte, en fait.
C'est moins performatif. Les actions qui sont posées, ce que tu mentionnes essentiellement, qui t'as peut-être l'occasion d'avoir un peu plus d'authenticité dans l'interaction que juste d'exister parce que la plateforme existe, de crier dans la rue que t'existes ou que t'écris dans une salle avec plein de gens, que tu veux montrer que t'es le meilleur, puis c'est un peu, puis ça m'a amené sur un axe, parce que je trouve ça ultra absurde, à l'ère d'Internet, de vouloir être le meilleur de, ou le chose de, parce que c'est, ou le plus rebelle, ou le plus, ça n'existe plus, parce que le spectre, il est infini. Dans le monde réel, on pouvait être dans notre village, dans notre quartier, dans notre école, on pouvait effectivement être le plus rebelle, puis prendre ce rôle-là, puis on n'était pas un extrême rebelle, on était juste le plus rebelle de cet écosystème-là. Sur Internet, être le plus rebelle, il faut être le plus rebelle de tout l'Internet. C'est gros, là, l'Internet, c'est immense. tu peux pas être le plus rebelle de l'Internet, là, c'est un combat infini aussi. Puis ça doit être des gens qui doivent être malheureux d'être voir le plus rebelle de l'Internet, parce que tu en as toujours un plus rebelle que toi qui va apparaître quelque part d'autre. Là. C'est impossible, c'est un combat infini par rapport... par rapport à cette situation-là. Je te remercie énormément de ce partage-là. C'est très intéressant de voir cet axe-là. Puis c'est un peu contre-courant, mais je pense que ça va s'amplifier cette année. Le timing est super intéressant d'en avoir justement parlé là, puisqu'il commence à avoir un mouvement de fond plus chez les jeunes, de vivre dans le monde réel, de revivre une enfance comme toi et moi, on a vécu, c'est-à-dire plus analogue, plus dans la vraie vie. Un peu plus avec des choses qui sont moins instantanées, puis des choses, des souvenirs qui sont tangibles et pas sur les médias sociaux, sur ce genre de choses-là. Fait que c'est vraiment... le timing a bien fait les choses essentielles.
C'est vrai. Ben, merci à toi.
Et merci.